de nous suivre sur Radio Orient. Il est 12h, le journal Inès Gilles. Au sommaire de cette édition, le candidat à la présidentielle, Gabriel Attal, est ouvert à une primaire du centre et de la droite pour éviter, selon lui, un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. 12 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées mercredi lors de feux de forêt dans le nord-est de l'Algérie. Et puis le bilan s'alourdit au Népal, plus de 170 morts, plus de 1000 portés disparus, dont au moins 500 touristes étrangers, parmi lesquels 4 Français, après des crues violentes à la frontière avec la Chine. Bonjour, Gabriel Attal se dit ouvert à l'organisation d'une primaire réunissant le centre et la droite. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat à la présidentielle pour Renaissance, estime qu'il n'y a plus de favoris dans son camp. Invité ce matin d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC, il a également indiqué avoir proposé à son rival d'Horizon, Édouard Philippe, un vote de départage. On l'écoute.
Je regarde les sondages, je regarde ce que disent un certain nombre d'observateurs qui ont l'habitude de commenter les sondages. Ce que disent des responsables politiques, ils disent, à juste titre je crois, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, une dynamique. Entre les deux, vous avez des candidats qui sont globalement dans la marge d'erreur, il n'y a pas de favoris. Vous en avez même certains, j'ai vu Hervé Morin ce matin avec plusieurs centaines d'élus locaux.
Qui demande une primaire.
C'est bien la preuve, si vous avez plusieurs centaines d'élus locaux qui demandent une primaire, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de candidats qui se disent
en favoris. Est-ce qu'il faut la faire cette primaire?
Moi je ne l'ai jamais écartée. Moi, je considère qu'on ne peut pas avoir peur d'une primaire, sinon il ne faut pas se présenter à l'élection présidentielle.
Donc ce matin, vous dites chiche.
Je n'ai jamais exclu cette possibilité-là. Ce que je sais, c'est qu'il faudra...
Entre exclure, pardon Gabriel Attal, mais entre dire non, mais j'exclus pas, et dire oui. Ok, moi je propose, allons-y, on organise, vous verrez Édouard Philippe cet après-midi au MEDEF, est-ce que vous allez lui dire, Édouard, viens, on y va.
J'ai fait à travers mes équipes une proposition à celle d'Édouard Philippe dans le cadre d'un comité de liaison qui se réunit tous les mois avec nos équipes, la proposition qu'on anticipe la possibilité
alors,
qu'il n'y ait pas de
favori. Qui refuse, c'est lui ?
Et qu'on fasse un vote de départage.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est
à
lui
ce
qui
stade,
veut pas ?
Il ne le souhaite pas.
Gabriel Attal, candidat Renaissance à l'élection présidentielle. À Caen, le bilan s'alourdit après qu'une voiture a foncé délibérément sur un groupe de personnes près d'un bar mercredi soir. Une victime qui était en arrêt cardio-respiratoire est décédée jeudi dans la matinée. Il s'agit du deuxième mort dans ce drame qui a également fait une dizaine de blessés. Le suspect, âgé de 26 ans, a été interpellé à Ouistreham dans le Calvados. À Mayotte, le Premier ministre Sébastien Lecornu accélérer la reconstruction après le cyclone Chido. En visite à Mamoudzou, il appelle à créer un choc de mise en chantier, je cite. Le cyclone en décembre 2024 avait fait au moins 40 morts et détruit de nombreuses habitations. Et malgré une loi de programmation votée en août 2025, de nombreux projets tardent encore à sortir de terre. Une partie du nord-est de l'Algérie à feu et à cendres. Au moins 12 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans des incendies de forêt. Un bilan provisoire. Plusieurs dizaines de personnes ont dû quitter leur domicile face à la progression des feux. François-Xavier de Calonne.
Et oui, Inès, les incendies n'ont pas seulement frappé la France cet été. Loin de là. Les pays d'Afrique du Nord en ont eux aussi été victimes. Et là, en ce moment, l'Algérie subit une véritable catastrophe. Les zones résidentielles ne sont pas épargnées. Exemple, dans la wilaya de Djidjel, plusieurs familles ont dû fuir leur domicile face à l'avancée des flammes. Des flammes attisées par des vents violents. Il suffit de regarder, par exemple, les images diffusées par Djidjel News, un site d'information de la région, pour avoir froid dans le dos. On y voit des habitants paniqués. Certains sont réfugiés dans un bureau de poste au milieu d'épais nuages de fumée, des personnes évidemment terrorisées alors que les feux se rapprochent d'elles. Le bilan humain est très lourd, vous l'avez souligné Inès, et ce bilan est provisoire. Il y a aussi des victimes dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou dans la région de la Kabylie. Hier soir, la protection civile avait recensé 159 incendies à travers le pays. De nombreux axes routiers sont interdits et la gendarmerie nationale appelle les automobilistes à la prudence et bien sûr ne pas tenter de franchir les routes fermées.
Et chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt.
Oui, et pas que. Tous les pays d'Afrique du Nord ont été victimes des feux de forêt cet été. En Algérie, les autorités ont dénombré près de 2000 feux le mois dernier. Cela rappelle l'été meurtrier de 2023. Plus de 30 personnes avaient perdu la vie dans la région de Béjaïa. Des feux avaient réduit en cendres des milliers d'hectares de forêts et de terres agricoles. Des centaines de maisons aussi avaient été détruites. Des morts, des blessés et des personnes qui se retrouvent sans abri. Voilà les conséquences de ces catastrophes auxquelles il est bien entendu impossible de s'habituer. Un phénomène aggravé par des épisodes de plus en plus fréquents de sécheresse et de forte chaleur liés au dérèglement climatique. Même si des pyromanes sont arrêtés, eh bien, les feux ne prendraient pas cette ampleur sans ce climat rude. La Tunisie et le Maroc ne sont bien sûr pas épargnés. Environ 4400 hectares de surface forestière ont été ravagés par les flammes en Tunisie entre le 1er mai et le 23 juillet dernier. Et au Maroc, 310 incendies ont été recensés depuis le début de cette année. Mais aujourd'hui, en ce moment même, c'est donc l'Algérie qui est durement frappée. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés et les pompiers risquent leur vie pour tenter de sauver celle des autres.
Dans l'actualité au Moyen-Orient, en Iran, les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Téhéran affirme que le blocus naval imposé par les États-Unis empêche le pays d'importer suffisamment d'essence, alors que la production nationale ne couvre pas les besoins. Dans ce contexte de nouvelles sanctions américaines, le Premier ministre qatari se rend aujourd'hui en Iran pour tenter de favoriser une désescalade. Il s'agit de la première visite du cheikh Mohammed dans le pays depuis le début de la guerre entre Washington et Téhéran. Au Liban, les dégâts de la guerre sont aussi environnementaux. Les autorités libanaises accusent Israël d'incendier, parfois délibérément, des terres agricoles et des forêts dans le sud du pays. Plus de 16 000 hectares ont brûlé depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023. Les détails, Nadia Bencher.
Des champs noircis, des vergers détruits et des forêts ravagées. Dans le sud du Liban, les incendies se multiplient, notamment dans les secteurs où l'armée israélienne est déployée. Rien qu'au mois d'août, des dizaines de feux ont touché plusieurs localités, parmi lesquelles Houla, Maïs al-Jabal et Wadi Slouki. Selon les autorités libanaises, plus de 16 000 hectares ont brûlé depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023. La défense civile de Nabatieh attribue ces incendies à des frappes israéliennes, des drones, mais aussi à l'utilisation de bombes au phosphore et de bombes à sous-munitions. Des responsables libanais, des ONG, des habitants accusent Israël de mener une politique de la terre brûlée destinée à éloigner les combattants du Hezbollah de la frontière. Le Conseil national de la recherche scientifique libanais affirme de son côté que ces destructions sont systématiques et s'appuie notamment sur des images satellitaires montrant la disparition de vergers et de forêts. Les dégâts concernent aussi des plantations anciennes. Dans le village de Zawtar al-Sharqiyeh, 600 oliviers ont été déracinés en août, selon l'agence officielle libanaise ANI. La ministre libanaise de l'Environnement dénonce, elle, un écocide dans le sud du pays.
Les forces démocratiques syriennes qui avaient combattu l'organisation État islamique pendant la guerre civile n'existent plus. Leur chef, Mazloum Abdi, en a annoncé la dissolution ce mardi, conformément à un accord conclu avec le président Ahmed al-Sharaa. Cette dissolution entérine la promesse du président syrien de réunifier le pays morcelé par la guerre civile et de démanteler les groupes armés. Alors quel est l'impact de cette annonce sur le terrain? Arthur Kéné, docteur en sciences politiques rattaché à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous en parle.
Le gouvernement syrien, en janvier 2026, quand il lance les opérations contre le nord-est, fait tout pour éviter de nouveaux massacres. Aussitôt en fait l'opération commençait, elle dure quelques jours. Surtout une insurrection locale, des populations arabes n'en pouvaient plus du contrôle kurde. Et derrière, Damas fait tout pour stopper les opérations au bout de quelques jours et de repasser le politique. Et le politique, c'est donc les accords de janvier 2026 et ensuite des négociations pour appliquer ces accords. En revanche, derrière ça, les Kurdes vont jouer la montre jusqu'à aujourd'hui en espérant que Damas soit plus affaibli et qu'en fait, elle puisse être en rapport de force à nouveau pour négocier une forme d'autonomie des zones kurdes en termes de forces de sécurité locales, d'institutions notamment de communes au niveau local et également sur l'économie, avoir leurs entreprises kurdes contrôler encore une partie du pétrole et des ressources locales. Quelle va être la réalité de cette dissolution sur le terrain? Tout ça est encore en cours de négociation. et quelque part une forme de rapport de force continue.
Arthur Kené, le chef kurde syrien Mazloum Abdi, quand il a annoncé la dissolution des forces démocratiques syriennes, il a tenu à rappeler l'importance de l'usage de la langue kurde. Est-ce que le combat maintenant pour les Kurdes syriens, il se trouve là sur le plan culturel ?
Oui, tout à fait. Donc les leaderships kurdes parviendront à conserver une forme de contrôle sécuritaire sur les zones kurdes. Ils ont une masse de combattants encore disponible qui leur permettra de s'assurer qu'il n'y ait pas de violation des droits des Kurdes sur place dans les enclaves kurdes. Après, sur les questions politiques et culturelles sont extrêmement importantes. Donc, pour les questions politiques, c'est le même problème se pose à eux que pour le reste des Syriens. C'est quel va être le rôle véritable du Parlement, l'indépendance du système judiciaire et la liberté aussi économique, qui sont quand même clés. Savoir si on va vers un marché monopolisé par de nouvelles autorités ou une compétition plus ou moins libre dans le pays. Et après, sur le plan culturel, vous avez raison de souligner l'importance de l'éducation et de l'éducation en langue kurde.
Arthur Kené, docteur en sciences politiques et spécialiste de la Syrie, sera l'invité de Grand Angle après le flash de 18h. Dans le reste de l'actualité internationale, au Népal, le bilan s'alourdit après de violentes crues et coulées de boue provoquées par l'effondrement d'un glacier en haute altitude. Au moins 270 personnes ont été tuées et plus d'un millier sont portées disparues. Les secours recherchent également plus de 500 touristes étrangers, dont 4 Français, toujours sans nouvelles, selon les autorités népalaises. La catastrophe a particulièrement touché une région très fréquentée par les trekkers et les pèlerins hindous. Les gardes-côtes mauritaniens ont annoncé aujourd'hui avoir secouru plus de 160 migrants, dont 17 enfants, éprouvés par le voyage et la précarité de leur embarcation après une panne de moteur. Et de retour en France, 23 départements sont placés en vigilance orange en raison de violents orages, avec des rafales pouvant dépasser 110 km à l'heure entre l'Auvergne et la Bourgogne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.